Radio Panique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique, pardon. Ouais. J'aime bien.
Je nous vois déjà dans 20 ans, tous enfermés chez nous. Claquemuré, j'adore ce verbe, et ce n'est pas tous les jours qu'on peut le sortir pour lui faire faire un petit tour. Les épidémies se seront multipliées. Pneumopathie atypique, peste aviaire, et toutes les nouvelles maladies. Et l'unique manière d'y échapper sera de rester chez soi. Et puis, il y aura toujours plus de menaces extérieures. Insécurité, vol, attaque, rapt et agression, puisqu'on aura continué de s'acharner sur les justes punitions en négligeant les vraies causes. Et le terrorisme, avec les erreurs à répétition des Américains, sera potentiellement à tous les coins de rue. La vie de nouveaux prisonniers que nous mènerons alors sera non seulement préconisée, mais parfaitement possible, et même en grande partie très agréable. Grâce au télétravail qui nous permettra de bosser à la maison tout en gardant les enfants, qui eux-mêmes suivront l'école en vidéoconférence. Grâce à Internet qui nous épargnera bien des déplacements, on n'aura plus besoin ni de poster les lettres, ni d'acheter un journal physique, ni d'aller faire la file dans les administrations. Dans les rues, il ne restera plus que des chiens masqués qui feront seuls leur petite promenade, pas de problème, sans voiture. Et du personnel immigré sous-payé en combinaison étanche, qui s'occupera de l'entretien des sols et des arbres. D'autres s'occuperont de la livraison de notre caddie de commande à domicile. Alors, nous aurons enfin accompli le dessein de Big Brother. Nous serons des citoyens disciplinés, inoffensifs, confinés, désocialisés. Nous serons chacun dans notre boîte. Un immense contingent de « je » consommateurs inertes. Fini l'agitation, fini la rue.
Un texte de Marc Moulin, intitulé « Vers la civilisation du couvre-feu », paru dans le Télémoustique du 27 avril 2003.
Lettre ouverte à la ministre Sophie Villemès, par Initiative Citoyenne, parue dans Kairos le 14 avril 2020. Question au gouvernement belge sur le coronavirus, le confinement et les futurs vaccins. À Madame Sophie Villemès, Première ministre. Copie à Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé en Belgique. Madame la Première ministre, nous essayons de comprendre les mesures contradictoires et souvent contraignantes qui sont prises depuis quelques semaines, notamment par votre gouvernement. Certes, nous n'ignorons pas les difficultés auxquelles les dirigeants du monde entier sont confrontés. Aussi, modestement, nous espérons que nos questions participeront à trouver les meilleures solutions pour sortir démocratiquement de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Nous souhaitons recevoir de votre part des réponses claires et concrètes à nos préoccupations, convaincus qu'elles sont aussi partagées par bon nombre de personnes, que ce soit le personnel soignant soumis à rude épreuve ou le simple citoyen. Constitué en 2009, à l'occasion de la grippe H1N1, notre collectif citoyen Initiative Citoyenne avait déjà posé une série de questions sur l'adoption d'une loi d'exception, les contours de la notion de pandémie, ainsi que sur les implications en termes de liberté et d'information en matière de santé, que ce soit sur la maladie ou les traitements et vaccins. La publication, en 2010, du contrat secret d'achat de vaccins H1N1 entre l'État belge et GSK, ainsi que la mise en cause du rôle de l'OMS par le Conseil de l'Europe, avait démontré la pertinence initiale de nos questions, de même, hélas, que les nombreux effets secondaires du vaccin H1N1 reconnus dans la littérature médicale, comme la narcolepsie. Avec la crise du coronavirus, nous assistons à une panique sans précédent à l'échelle du monde et aussi à des mesures inédites de restriction des libertés publiques, comme celles de déplacement et de rassemblement, pourtant garanties par notre Constitution. Première question, pouvez-vous, Madame la Première Ministre, définir pour nous tous ce qu'est une pandémie ? En effet, en 2009 déjà, l'OMS avait gommé de sa définition la nécessité d'un grand nombre de morts pour le déclenchement de l'alerte maximale, et en 2013, le quotidien du médecin nous informait que l'organisation changeait une nouvelle fois sa façon de procéder et qu'elle simplifiait son système d'alerte avec quatre phases, interpandémie, alerte, pandémie, transition, interpandémie. Qu'en est-il donc à l'heure actuelle ? Deuxième question. Pouvez-vous nous préciser qui est l'OMS ? Petit A, quelle est la part de financement du secteur privé dans le financement de l'OMS ? Petit B, qui décide précisément au sein de l'OMS de déclarer une pandémie ? À qui revient ultimement cette décision en cas de désaccord ? Et quelle est la marge de manœuvre des États dès lors que cette décision est prise ? Petit C, quel est d'après vous le rôle des experts ? L'OMS tient-elle compte des conflits d'intérêts potentiels dans sa sélection d'experts et comment concrètement ? Petit D, que pensez-vous de la suggestion récente qu'aurait lancée un directeur de l'OMS de voir des professionnels de santé commencer à aller faire du porte-à-porte pour aller débusquer les personnes infectées à leur domicile et les placer en isolement ? Petit E, malgré le rôle de coordination de l'OMS, il faut constater qu'il n'y a pas d'uniformité des mesures prises par les différents États européens. Par conséquent, que vous inspirent ces mesures en sens divers pour une politique dans notre pays ? Question 3, quelques points de la gestion belge de cette crise. Petit A, qui décide quoi, vu les différentes structures et comités dans un pays comme le nôtre, où on dénombre 9 ministres responsables de la santé ? Centre national de sécurité, Sciences-Sano, Risk Management Group, GEES, autres ? Pouvez-vous rendre publiques les activités et occupations de chacun des experts belges en charge de ce dossier et nous dire sur quelle base vous évaluez leurs éventuels conflits d'intérêts ? Petit B, plusieurs acteurs de renommée internationale ont émis des avis moins alarmistes sur la crise du coronavirus. Pourriez-vous nous dire si vous avez tenu compte de l'avis de tels experts et médecins de terrain et sinon sur quelle base les avez-vous écartés ? Petit C, nous sommes confrontés à une véritable guerre des chiffres avec des projections et des décomptes journaliers sur lesquels les pouvoirs publics se basent pour décider du confinement et de l'évolution des mesures à prendre. Ces chiffres sont pourtant sujets à caution et évolution, comme l'a par exemple montré le rétropédalage récent de l'épidémiologiste Neil Ferguson, Imperial College of London, dont le modèle d'évolution du coronavirus a été pris comme référence par la plupart des États. Pourriez-vous dès lors nous expliquer la façon dont vous établissez ou jaugez la fiabilité des chiffres de malades et de mortalité en Belgique ? Alors que l'ensemble de la population n'est pas testée, jusqu'à 80% des infections pourraient être asymptomatiques selon les données chinoises. 20 à 40% des décès attribués au Covid-19 en Belgique n'ont même pas fait l'objet de tests. Il est difficile de départager précisément ceux qui meurent avec le Covid-19 de ceux qui meurent du Covid-19. Pourriez-vous nous rappeler en temps normal le nombre de gens qui décèdent en Belgique chaque jour, toutes causes confondues, et par exemple à cette saison ? N'a-t-on jamais connu avant cet épisode de coronavirus de pic de mortalité, par exemple lié à des infections respiratoires ou à d'autres causes ? Petit E, quelles mesures avez-vous prises pour éviter pareille incurie à propos de l'absence de masques ? Pour rappel, un stock de 6 millions de masques, FFP2, a été détruit en février 2019, sans être remplacé. Petit F, pouvez-vous nous expliquer les raisons de l'arrêté royal du 17 mars 2020, par lequel un membre de votre gouvernement interdit explicitement le recours aux tests de détection rapide du coronavirus pour une durée de 6 mois ? Et ce, alors même qu'à cette date, il était déjà connu que les pays qui avaient le plus procédé aux tests avaient les taux de mortalité les plus bas, Corée du Sud, Allemagne, etc. En l'absence de tels tests, des hôpitaux comme l'AZVUB, recourent systématiquement à des scanners thoraciques irradiants pour tester et trier les patients, exposant ainsi plus de 9 patients sur 10 inutilement aux radiations. Pouvez-vous nous décrire les différents tests présents à venir et leur degré de fiabilité respectif? Et nous dire également pourquoi avoir écarté les laboratoires de biologie clinique agréés au profit des firmes industrielles. Petit G. S'agissant des traitements, des moyens de prévention et des facteurs de risque, pourquoi votre gouvernement ne met-il pas à la disposition des patients et des médecins une information suffisamment plurielle et indépendante, alors que 70% des patients sont en faveur d'un remboursement standard des médecines complémentaires? Pourquoi, par exemple, ne pas dire à la population, dont 70% est carencée en vitamine D, que le risque d'hospitalisation pour Covid-19 est majoré chez les gens manquant de cette vitamine? Pourquoi ne pas mettre à disposition des hôpitaux et des médecins, patients, de la vitamine C pour perfusion intraveineuse, alors que ce traitement remarquablement sûr a déjà démontré son efficacité et est utilisé dans des hôpitaux chinois et américains? Pourquoi ne pas signaler aux patients vaccinés contre la grippe saisonnière que selon une étude de l'armée américaine, leur vulnérabilité au coronavirus est ainsi accrue de 36% et dès lors décider de modifier les futures recommandations vaccinales contre la grippe avant l'hiver prochain? Quatrième question. Pouvez-vous nous dire ce qu'est pour votre gouvernement le confinement? Petit A. Cela consiste-t-il à museler les libertés, empêcher l'accès aux soins, autre que ceux prévus pour le coronavirus, empêcher la justice de fonctionner, les écoles d'enseigner, les familles de se retrouver? Petit B. Comment expliquez-vous que certains pays survivent sans confinement, Suède, Biélorussie, Taïwan, Corée du Sud, etc. Petit C. Comment votre gouvernement prend-il en compte l'impact psychologique du confinement sur les populations? Un Belge sur deux serait en difficulté psychologique, lequel constitue une source de morbidité sérieuse pesant sur la population générale, mais aussi l'abandon de soins vis-à-vis de toute une partie déjà fragilisée de la population, malades chroniques, personnes atteintes de maladies rares et de handicaps divers, dont les consultations sont annulées et les opérations reportées au péril de leur santé au nom de la seule obsession du coronavirus. Petit D. Comment expliquez-vous toutes les mesures impopulaires et préoccupantes qui sont en train de passer à la va-vite et de façon beaucoup plus commode à présent que les gens sont confinés et moins à même de protester? Installation de la 5G dont les dangers sont pourtant dénoncés par des milliers de scientifiques dans le monde, et ce alors qu'une large partie de la population y est catégoriquement opposée. Appel à la fin du cash, voire interdiction pure et simple du liquide dans plusieurs magasins de première nécessité. Perspective d'un tracking de plus en plus serré des personnes au nom de leur sécurité. Cinquième question. Quelle politique en matière de vaccin? La plupart des gouvernements attendent comme un messie le vaccin qui sauvera le monde. C'est ainsi que le ministre des Finances, Alexander De Croo, a récemment justifié le versement par la Belgique de 5 millions d'euros au CEPI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation pandémique. Monsieur De Croo a en effet déclaré que la CEPI va commencer les essais cliniques d'ici 4 mois, et qu'il n'y a pas de temps à perdre car ça pourra sauver des vies. Eu égard à la mortalité modérée du Covid-19, voire les propos du docteur Charlotte Martin du CHU Saint-Pierre, comment pouvez-vous être d'emblée si sûr qu'un vaccin élaboré dans un délai aussi rapide ne créera pas plus de décès et de maladies comme cela s'est déjà vu avec d'autres vaccins? H1N1, dengue, etc. Sur quelle base avez-vous choisi d'investir 5 millions d'argent public alors que le virus mute, qu'il y aurait 8 souches différentes du virus, que la question de la réinfection possible des patients n'est toujours pas résolue et que plusieurs experts ont d'ores et déjà pointé des préoccupations majeures? La première, le fait que des étapes essentielles d'évaluation de la sécurité, sur animaux, seront court-circuitées au motif de l'urgence. Ces étapes permettant notamment de vérifier si les vaccins ne peuvent pas donner lieu à des flambées de la maladie, ce qui est parfois possible. Une autre préoccupation est le fait que le vaccin peut créer une sensibilisation des patients vaccinés les rendant beaucoup plus à risque de complications et de réactions mortelles en cas de rencontre ultérieure avec le virus. Comme cela s'est vu par exemple aux Philippines, avec le vaccin de Sanofi contre la dengue, qui avait aussi été recommandé par l'OMS, mais qui a créé un scandale d'État. Une autre préoccupation est le fait que des publications scientifiques antérieures sur des vaccins anti-coronavirus aient fait état de dégâts immunologiques au niveau pulmonaire. Le fait que plusieurs projets de vaccins, Moderna, CureVac, etc., recourent à une technologie inédite impliquant l'usage d'ARN ou d'ADN, méthode aux risques inconnus qui pourrait donner lieu à des risques d'auto-immunité et de mutations génétiques irréversibles, dont l'importance ne pourrait être jaugée qu'après une expérimentation à large échelle sur des populations cobayes. Cautionnez-vous le futur chantage vaccinal qui se profile avec les propos récents de Madame Ursula von der Leyen, selon lesquels il faudra limiter les contacts avec nos seniors tant que le vaccin n'est pas disponible? Pouvez-vous déjà nous garantir le respect de la loi du 22 août 2002, c'est-à-dire le droit au consentement libre et éclairé des patients? Article 8, paragraphe 1er, le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel, moyennant information préalable. Paragraphe 2. Les informations fournies au patient en vue de la manifestation de son consentement visée au paragraphe 1er concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elle concerne en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien, le cas échéant, en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention. Question 6. Comment concevez-vous la notion de démocratie sanitaire ? Cette notion importante de démocratie sanitaire vous paraît-elle encore possible dans un contexte où on retrouve par exemple un même intervenant comme Bill Gates à autant d'étages et de niveaux différents ? Vous paraît-il sain et admissible qu'une personne, fût-elle très riche, soit en mesure d'avoir une telle influence sur les politiques de santé du monde alors qu'il n'a eu de cesse lui-même de nous annoncer des pandémies imminentes ? Ainsi, Bill Gates n'est-il pas à la fois un proche de l'actuel directeur général de l'OMS bien avant sa nomination en 2017, le second plus gros donateur de l'OMS depuis des années, un contributeur financier de la CEPI déjà mentionné plus haut, créé en 2017, un des partenaires clés avec la fondation de l'Event 201, exercice sur table de préparation à une pandémie mondiale de coronavirus organisée en partenariat avec le Forum de Davos et l'Université Johns Hopkins le 18 octobre 2019, quelques semaines avant que la pandémie ne soit annoncée. Un investisseur important dans des firmes comme CureVac, Moderna et Inovio qui travaillent sur un vaccin anti-coronavirus avec différentes technologies génétiques ADN-ARN. Bill Gates est encore celui qui annonce que le vaccin coronavirus ira d'abord aux professionnels de santé. Il est celui qui décrète qu'il n'y aura plus de grands rassemblements tant que les gens ne seront pas vaccinés, le lancer plaidant à présent dans le même sens. Bill Gates est encore celui qui évoque la perspective de certificats digitaux destinés à savoir qui est naturellement immunisé ou vacciné. Celui qui finance le dispositif du MIT de carnet de vaccination invisible et injectable par vaccin recourant aux nanotechnologies et en mesure de différencier les vaccinés des autres. Il est encore celui qui apporte son soutien à un plan d'$1 milliard pour couvrir la Terre de satellites de vidéosurveillance. C'est celui qui nous annonce à présent qu'il va investir massivement pour faire construire à la hâte 7 usines qui produiront les deux vaccins anti-coronavirus ultimement les plus prometteurs. Bill Gates est encore celui qui finance aussi une étude sur le coronavirus à la CUL. Madame la Première Ministre, vos réponses à nos préoccupations sont primordiales dans le contexte de ladite pandémie qui permet de mettre en place, et ce pour tout un chacun, la réduction de nos libertés fondamentales. Nous souhaitons vous exposer une dernière réflexion. En 1945, Georges Bernanos écrivait « Le jour n'est pas loin peut-être où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clé dans la serrure afin que la police puisse entrer chez nous, nuit et jour, couvrir notre portefeuille à toute réquisition. » Aurait-il vu juste ? Un tout grand merci de prendre en compte ce courrier. Nous attendons des réponses pertinentes, des éclaircissements, justifiés d'un point de vue médical et démocratique.
Elle frappe le sol, tourne sur elle, tourne. Frappe le sol, tourne sur elle, tourne. La pluie inonde ses cheveux, la pluie imbibe sa robe bleue. Lourde est sa tête, lourde est la robe, lourde est sa tête, lourde est la robe. Elle frappe le sol, tourne sur elle encore. Frappe le sol, tourne sur elle encore. Le vent renverse son corps fin, le vent arrache sa robe de lin. Tombe la robe, tombe son corps, tombe la robe. Elle frappe le sol tourne sur elle encore. Frappe le sol tourne sur elle encore. La neige fige son tressage, la neige glace son corsage. Dure est son cœur, dure est sa tête, dure est son cœur. Elle frappe, plus fort, tourne sur elle encore. Frappe, plus fort, tourne sur elle encore. Frappe, plus fort, tourne sur elle encore. Frappe, plus sur elle encore. Frappe fort, frappe fort, tourne sur elle, tourne sur elle. Frappe fort, frappe fort, tourne sur elle, tourne sur elle. Frappe fort, frappe fort, tourne sur elle, tourne sur elle. Frappe fort, frappe fort, tourne sur elle, tourne sur elle. Frappe fort, frappe fort, tourne sur elle, tourne sur elle. Frappe fort, frappe fort, tourne sur elle, tourne sur elle. La neige, le vent, la pluie s'accordent à dire depuis. La neige, le vent, la pluie s'accordent à dire ceci. La neige, le vent, la pluie s'accordent à dire depuis. La neige, le vent, la pluie s'accordent à dire ceci. Elle perd pied.
Moi, je vais dire que tout a changé puisque je suis une infirmière du quartier opératoire et que pour faire face au Covid en soins intensifs, on a transformé toute une partie de salle de réveil en soins intensifs et on nous a, nous, formés infirmières de quartier opératoire à devenir des infirmières de soins intensifs en une heure. Donc voilà, donc le boulot que je fais depuis le Covid n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Je suis infirmière salle d'op, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assiste les anesthésistes et les chirurgiens à réaliser leurs interventions. On aide à endormir le patient, à installer le patient, donner tout le matériel, voilà, des interventions et veiller à ce que tout se passe bien pendant l'intervention et l'après. Donc ça, c'est mon boulot normal d'infirmière salle d'op. Et maintenant, je suis infirmière de soins intensifs. Mais ça n'a rien à voir, puisque là, c'est la surveillance de patients, alors qu'ils sont soit Covid ou pas, mais qui normalement sont dans des unités de soins intensifs. Comme à Delta, il y avait 2 unités de soins intensifs, on en a créé 2 supplémentaires pour le Covid. Et pour ces unités de soins intensifs, il a fallu du personnel. Et ça, c'est le personnel du quartier opératoire qui s'est transformé en personnel de soins intensifs. Et donc, on n'est pas du tout préparé à ça. Pour le moment, à Delta, on en a 40, je pense, qui sont aux soins intensifs. Et une bonne centaine qui sont dans les étages. Donc, même chose, les étages ont été transformés aussi, puisque les services d'orthopédie, ce qui ne se fait plus, les services de clinique de jour, etc., ont été fermés. Certains services ont été transformés en services Covid. Et même chose, le personnel qui se trouvait, par exemple, dans les services d'orthopédie ou de clinique de jour, eh bien, se retrouve dans les services Covid. Donc, à tous les niveaux, le personnel a dû changer pas sa manière de travailler, mais en tout cas, c'est une autre destination de travail et un autre boulot. Un autre boulot. Donc, la première étape, quand le plan MASH, qui s'appelle maintenant le plan PU, a commencé, on a arrêté toutes les interventions à l'hôpital. Il faut savoir qu'à l'hôpital, on tourne généralement aux alentours de 120 interventions par jour. Donc, ça veut dire que ce sont autant de lits qui sont occupés, minimum un jour, parfois plusieurs jours. Et donc, au départ, on a arrêté tout le programme opératoire pour éviter de remplir des lits et pour permettre de vider des lits. Donc, il y a une période où on avait dans l'hôpital 200 lits qui étaient vides et donc prêts à accueillir des patients Covid. Je fais des nuits depuis le début du Covid, donc le boulot d'infirmière de jour et d'infirmière de nuit est quand même différent. Donc moi, je fais principalement des nuits. Alors si j'ai choisi de faire des nuits, c'est parce que même si on a beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup plus calme dans le sens où il y a moins d'énergie négative. Il faut savoir qu'avec ce Covid, aux soins intensifs notamment, comme je te dis, il a fallu trouver des infirmières de soins intensifs, mais il a fallu trouver des médecins aussi. Et donc, les patients sont surveillés par des médecins qui sont des anesthésistes, en fait, qui sont aussi réanimateurs, mais ce n'est pas leur boulot de s'occuper de gens en soins intensifs. Ce qui fait qu'en journée, il y a énormément de monde, énormément de personnel infirmier, de kiné, de médecins, et moi, c'est toute une énergie négative que je fuis. Moi, je commence mon boulot à 19h30. Alors, comment démarre une nuit aux soins intensifs? Eh bien, on a d'abord un rapport de tous les patients qui va nous expliquer pourquoi le patient est là, Covid ou pas, parce qu'il y a 3 unités de soins intensifs Covid, mais il y a maintenant aussi une unité de soins intensifs non Covid, parce que les gens continuent à être malades. Et donc ceux-là, il faut les soigner aussi, et il faut éviter de les mélanger avec des patients Covid. Je fais principalement les soins intensifs non Covid, ou en tout cas, les gens ne sont pas là pour le Covid, et n'ont pas encore été diagnostiqués. Parce qu'il y a ce problème aussi, c'est que on diagnostique pas les gens et donc on se rend compte parfois 3 jours après qu'un patient dont on s'est occupé était Covid, mais seulement on l'avait pas testé, on n'avait pas les résultats. Et je pense qu'on ne les teste pas d'emblée. Pourquoi? Parce qu'il manque du matériel de protection en suffisance pour s'occuper des patients Covid. Et donc, le fait de ne pas le savoir permet d'imaginer que les gens ne sont pas Covid et que donc, il ne faut pas fournir au personnel les masques, notamment ces fameux masques FFP2 pour s'occuper des patients. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, la journée commence par un rapport des patients, de leur pathologie, de leur constante, de leur traitement. Donc, c'est un rapport qui dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, tout au long de la nuit, toutes les 3 heures, on va aller au chevet du patient, refaire toutes ses constantes, surveiller ses paramètres, sa tension, sa saturation en oxygène, vérifier ses perfusions, donner les médicaments s'il y a lieu, faire des prises de sang, des gazométries, les interpréter et en fonction de ça, communiquer au médecin et à partir de là, on va ajuster les traitements ou les perfusions. Et donc, on va faire ça toutes les 3 heures. Quand on fait la nuit, c'est principalement ça. La journée, je veux dire que le travail est un peu le même, si ce n'est qu'en plus, il y a tous les soins d'hygiène le matin, parce qu'il faut faire les toilettes des patients. Et puis en journée, il y a les kinés aussi. La journée est rythmée par les repas aussi, pour ceux qui savent s'alimenter. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il n'y a pas la nuit. Et donc, par rapport à ça, une grosse majorité de l'équipe préfère travailler dans le service Covid parce que là, ils sont sûrs qu'ils seront protégés. Et que les patients ont tous la même pathologie. Et donc, par exemple, donc pour nous qui ne sommes pas des infirmières de soins intensifs, et bien finalement, une fois que tu t'es occupé des quelques patients, c'est toujours la même chose. Ils sont tous Covid, c'est quasi tous le même traitement. On les met quasi tous sur le ventre et ils sont tous intubés. Et les soins sont finalement, il y a 7 ou 9 patients, mais 7 ou 9 patients qu'il faut tous quasi traiter de la même manière. Que dans un service de soins intensifs non Covid, eh bien, t'as d'autres pathologies. T'as une hémorragie cérébrale, t'as une hémorragie digestive, tu as ben, des choses différentes non Covid. Et donc voilà. Donc là, on considère effectivement que le patient ne vient pas pour le Covid, donc on ne se protège pas pour le Covid. Voilà. Alors que nous, on le réclame. Hein. Alors que nous, on le réclame. Par rapport aux moyens de protection, il faut savoir qu'au début, ça a vraiment été la grosse bagarre avec la direction parce qu'on voulait même nous retirer les simples masques chirurgicaux. Donc ça, finalement, maintenant, on a accès. Alors, ces fameux masques FFP2 sont des masques qui sont sous clé. Il y a toute une procédure pour pouvoir obtenir un masque. Et ces masques qui ne peuvent normalement être portés que quelques heures, eh bien, on les porte pendant 5 jours. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de notre journée, on les emballe, ils sont envoyés à la stérilie, où donc là, ils sont stérilisés, mais surtout, ils sont décontaminés. Et puis, le lendemain, on retrouve nos masques et on les utilise pendant 5 jours. Alors, quand on les utilise de jour en jour, on voit qu'ils sont, qu'ils s'abîment, qu'ils se détériorent. Et donc, on n'a aucune sécurité par rapport, à l'efficacité de ces masques une fois qu'ils ont été lavés 5 fois. Alors évidemment, on nous dit qu'ils filtrent toujours autant, etc., mais on n'en a aucune preuve, et tout ce qu'on sait, c'est que ce sont normalement des masques à usage unique. Donc voilà ce qu'on nous demande de faire. Et on met par exemple des blouses de protection qu'on met au-dessus de notre uniforme et qui normalement doivent être éliminées chaque fois qu'on a soigné un patient. Donc quand on va 4-5 fois au chevet du patient pendant la nuit, ben normalement, on devrait chaque fois mettre une nouvelle blouse et la jeter. Eh bien non, on garde notre blouse pour toute la nuit. Ça veut dire probablement des erreurs parce qu'on sait qu'on se contamine principalement lors du déshabillage. Eh bien, le fait ici, on enlève notre blouse et puis une heure après, on la remet. Donc, c'est certain qu'il y a des erreurs et c'est à ce moment-là qu'on risque d'être contaminé. À côté de ça, quand on est au boulot, même si avant de commencer, on est stressé parce que personne n'a envie de l'attraper, mais de manière générale, quand on en discute dans l'équipe, eh bien, une fois qu'on y est, on y est. Et donc, quand on soigne le patient, on ne pense pas qu'on risquerait de attraper le Covid et que donc on va faire ci, on va pas faire ça, on va pas l'aspirer. Non, on fait comme si c'était un patient lambda, quoi. Voilà. Je veux dire, moi, je suis infirmière depuis 27 ans. Voilà, le fait qu'il y ait cette maladie, ça fait partie du deal et des risques. Alors maintenant, on parle du Covid, mais je veux dire, il y a 20 ans, il y avait le HIV. Nous, on s'occupe quand même de patients qui ont le HIV. On s'occupe des patients qui ont des hépatites B, qui ont des hépatites C, qui ont des infections. On est souvent en contact avec la maladie qui peut être contagieuse. Et ça, on le sait. Voilà, moi, par rapport au fait que je sais que j'aurais pas pu faire autre chose qu'être infirmière, le fait qu'il y ait ce Covid, je continue à aller bosser et je vais certainement pas rester chez moi. Donc, ça ne me fait que me conforter et que heureusement qu'on est là. Voilà, la seule chose, c'est que les gens s'en rendent compte maintenant parce qu'on en parle plus. Les infirmiers, les héros, etc., etc., mais on fait ça toute l'année. on fait ça toute l'année, travailler dans des conditions difficiles et ben, ça ne change rien, sauf que maintenant on en parle. Mais par rapport à mon boulot et ma manière de regarder mon boulot et d'aimer mon boulot, ça ne change rien. Si ce n'est que ben, là, on fait quelque chose et pour une fois, le public le reconnaît. Pour une fois, ce qu'on fait est reconnu par la population. Et le reste du temps, on fait pareil, mais tout le monde s'en fout. Voilà. Donc maintenant, on a des gens en soins intensifs depuis 3-4 semaines, finalement. Et ces gens, alors il y en a quelques-uns qui ont déjà été détubés, extubés. Mais ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que les gens sont stables, c'est-à-dire qu'ils sont intubés. Ils sont sur le ventre la majeure partie du temps, à peu près 16 heures par jour. Et en fait, ces gens sont stables. Mais stable, c'est bien et c'est pas bien dans le sens où ça n'évolue pas. Mais donc, ça n'évolue pas vers le pire, mais ça n'évolue pas vers le mieux non plus. Ça reste stable et on a l'impression que ces gens seront encore là dans 15 jours, toujours dans le même état. Mais on n'a en tout cas pas on ne le sait pas non plus parce que tous les morts qu'il peut y avoir, si c'est pas dans ton service, ben tu vas pas le savoir. Alors, on a eu des morts déjà dans l'USI Covid. Voilà, dont on a beaucoup parlé, c'était un musulman. Bon, ben voilà, ce qui est horrible, c'est que ces gens doivent mourir seuls, parce qu'il y a personne à côté pour leur tenir la main. Et donc ici, par exemple, ce patient qui est décédé il y a une semaine, eh bien, toute l'équipe s'est mise autour de lui. On avait dans l'équipe un infirmier musulman, il a mis une prière musulmane. Et voilà, c'est un moment très très fort pour l'équipe et pour le patient qui, c'est vrai, n'était pas avec sa famille, mais qui n'est pas mort seul. Voilà, parce que ça fait partie de notre boulot aussi. La mort fait partie de la vie et quand on est infirmier, ben ça fait partie de notre boulot, la mort et tout ce qu'il y a autour et l'accompagnement de quelqu'un en fin de vie, que ce soit le Covid ou pas. Et on laisse pas quelqu'un mourir seul, et d'autant plus s'il n'y a pas la famille tout près. Et c'est vrai que moi je pense à papa, on est exactement à un an, dans cette période-ci, il y a un an, il était hospitalisé, il aurait passé trois mois tout seul dans une chambre. Je pense qu'il y a le Covid, mais il y a aussi tous les gens qui sont en fin de vie, que ce soit par maladie ou parce que c'est la fin de la vie, et qui sont tout seuls pour ça. Et après cette mort, il y a tout ce qui est, il y a l'enterrement, etc. Je vous dis, il n'y a pas plus de 10 à 15 personnes. Je pense que pour le processus de deuil, pour la famille, ça doit vraiment avoir une influence négative. De ne pas pouvoir faire son deuil parce que on n'a pas pu accompagner la personne, on n'a pas pu la voir quand elle était morte. Et je pense que dans la population, il va vraiment y avoir des gens, les psychologues, ils vont avoir du boulot, hein, parce qu'il y a des gens qui vont pas être bien d'avoir laissé leur mère ou leur grand-mère mourir toute seule, que ce soit dans un home. Quand on voit ce qui se passe dans les homes, ça c'est vraiment horrible. Tous ces pauvres vieux qui meurent tout seuls, mais ça veut dire aussi toutes ces familles qui doivent être mal d'avoir laissé leur vieux mourir tout seul. J'en ai discuté la nuit, des dernières nuits, où j'ai un infirmier qui travaille aussi dans un home, hein, parce que les infirmiers gagnent tellement bien leur vie qu'il y en a beaucoup qui font deux boulots, et qui nous expliquait qu'il y avait 14 patients là dans son home qui étaient décédés. Et en fait, au départ, personne n'avait rien. Et puis, il y a un des soignants qui a été touché. Et voilà, il y a 14 patients qui sont morts, 14 petits vieux qui sont morts. Ce qu'il nous disait, c'est que voilà, il continue à s'en occuper, mais il est heureusement dans un home où il y a les moyens de protection. Je pense qu'il y a beaucoup de homes où ils n'ont vraiment rien. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants. Voilà, alors je pense qu'on ne les laisse pas croupir, mais... Voilà, tous ces pauvres vieux, ils peuvent même plus sortir de leur chambre, ils sont isolés dans leur chambre, ils se retrouvent plus dans la salle de séjour, la salle de télé, etc. Ça doit vraiment être très très difficile pour eux, surtout les petits vieux, souvent psychologiquement, mais voilà, ils sont en fin de vie, ils sont pas au top. Et voilà, même tous ceux qui n'ont pas été atteints et qui s'en sortiront, seront probablement touchés par le fait d'être restés. Enfin, imagine-toi rester pendant 2 mois dans une chambre de 15 mètres carrés en ne voyant juste qu'une infirmière 3 fois par jour pour faire ta toilette et t'apporter ton repas. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Il y a le home, mais il y a aussi toutes ces infirmières à domicile. Les infirmières à domicile qui, même chose, doivent aller soigner les patients déjà parfois dans des conditions pas terribles et qui, elles, n'ont, même chose, aucune aide, aucun accès à des masques, à des gants. Et c'est, elles doivent se débrouiller, se faire des masques en tissu et prier pour que ça passe pas, quoi. Alors, je vais te dire que, donc, après 27 ans, je viens seulement de me syndiquer. Et je me suis syndiquée au début du Covid parce que j'ai toujours été contre les grèves et contre, tous ces trucs-là. J'ai été syndiquée tout au début de ma carrière et je me suis retirée du syndicat le jour où on m'a obligée de faire grève. J'estime que tu as le droit de grève, mais tu as aussi le droit du travail. Voilà, j'avais pas du tout accepté le fait que, le service soit fermé et qu'on m'oblige à faire grève. Et donc voilà, je n'étais plus du tout syndiquée. Et là maintenant, au début du Covid, j'ai été voir une déléguée syndicale. Je dis que moi, je veux me syndiquer. Parce que je pense qu'après cette crise, tout le secteur de la santé doit se révolter et va plus que probablement se révolter. Et on doit profiter, entre guillemets, d'avoir la population derrière nous pour faire entendre ce qu'on a à dire par rapport au fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour la santé, que la santé, c'est la population, et qu'on se rend compte bien maintenant que s'il n'y a pas les moyens dans la santé, ben voilà, les gens vont en crever. Et donc, par rapport à ça, oui, je me suis syndiquée parce que il va y avoir des mouvements de grève, et c'est la première fois dans ma carrière que je ferai grève au finish niveau. Syndicat, j'ai demandé la déléguée syndicale du service, mais pas de quelle couleur politique elle est, j'en sais rien. Je pense que les syndicats, par rapport à ça, par rapport à la santé, sont de toute façon toujours en bloc et les syndicats sont unis. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est pas compliqué, c'est plus de moyens pour la santé, mais ça veut dire aussi pour la population. La revalorisation des barèmes salariales, ben bon, voilà, ça c'est quand même triste quand tu vois. Tu sais, Robin travaille maintenant au Deleuze, il travaille 30 heures semaine, il a le même salaire qu'une infirmière qui commence à travailler. Alors tant mieux pour lui. Mais l'infirmière, elle s'occupe des patients, elle travaille un week-end sur deux, elle fait des nuits, elle travaille jusqu'à 22 heures, elle a fait 4 ans d'études. Il y a le même salaire que quelqu'un qui commence au Deleuze et qui sort de Réto. Je crois que quelque part, là, il y a un problème quand même. Mais ça, voilà, moi, je vais dire que ce n'est pas ça la revendication principale au niveau salarial parce que ça, tu le sais, je le savais avant de commencer à faire mon boulot que j'aurais des horaires de merde et un salaire de merde. Et si tu choisis d'être infirmière, tu sais bien que ce n'est pas pour gagner de l'or en barre. Donc, le salaire, c'est pas tellement ça, moi, mais c'est vraiment les moyens, mais c'est les moyens humains aussi, dans le sens où on est beaucoup trop peu nombreuses. La nuit, il y a une infirmière pour s'occuper d'un service de 28 patients, enfin, je veux dire, c'est inadmissible. C'est un manque de moyens dans ce sens-là, je trouve, surtout. Le fait que les gens disent « vous êtes des héros », etc., ok, c'est très bien, mais on n'est pas des héros que pendant le Covid, hein. On est des héros tout le temps alors. C'est ça le problème, c'est ce que je te dis, c'est que maintenant les gens se rendent compte qu'on a besoin des infirmières et qu'on fait quand même un boulot dingue. Hein. Ah ben tiens. Ben, par exemple, avec mes enfants, puisque Cassandre, ben voilà, elle vend des fringues. Donc voilà, c'est pas un bien. Donc elle est confinée chez elle en colocation, etc. Et par contre, Robin, qui lui travaille au Deleuze, eh ben, il bosse. Robin, au début, il m'a dit, ah, maman, moi, je vais rentrer un certificat et je vais pas aller travailler, j'ai beaucoup trop peur. J'ai dit, non, Robin, tu peux pas. parce que tu fais un travail de service à la population et donc tu es obligé d'aller travailler. La seule différence par rapport à nous, du milieu médical, c'est qu'eux ne l'ont pas choisi. Quand tu es caissier au GB, tu n'imagines pas qu'un jour, ta santé pourrait être en jeu à cause de ton métier. Tandis que nous, on le sait. Et je veux dire, le fait d'être en danger par rapport à mon métier, bah oui, ben ça fait partie, comme je t'ai dit au début, ça fait partie du deal. Par contre, voilà, tous ces caissiers, etc., eux, ça ne fait pas partie du deal. Et je trouve qu'eux devraient être valorisés, effectivement, par une prime de risque, parce que ce sont des risques qu'ils prennent. Ils prennent des transports en commun pour aller bosser. Ils bossent. Alors, on nous dit qu'il faut mettre des masques, qu'il faut mettre des gants, etc. Encore faut-il bien les utiliser dans les grandes surfaces. Mais eux sont tout le temps là-dedans. Et au début ou juste avant le confinement, quand tu as vu le monde qu'il y avait dans les grandes surfaces, mais tu imagines comme ces gens ont été exposés sans aucune protection. Et eux, ils n'ont pas signé pour ça. Nous, les infirmiers, en tout cas dans notre hôpital, si on tombe malade, que ce soit le Covid ou autre chose, on n'a pas notre salaire garanti, on tombe sur le chômage technique. Et ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. Parce que généralement, quand tu tombes malade, le premier mois, tu es à charge de ton employeur. Et donc ici, ben voilà, moi, par exemple, qui courais, ben, je n'ose plus faire de jogging parce que j'ai peur de me casser un pied ou de me tordre une cheville et de ne plus savoir aller bosser. On n'a plus droit au salaire garanti. On se retrouve d'office sur le chômage. Et ça, je trouve que ce n'est pas correct. Que ce soit le Covid ou autre chose. Alors, le Covid, on ne saura jamais prouver qu'on l'a attrapé à l'hôpital. Mais bon, on a quand même augmenté les risques. Par contre, c'est considéré comme une maladie professionnelle, paraît-il. Mais je n'en sais pas plus par rapport à ça. Les infirmières qui sont touchées par le Covid, c'est considéré comme une maladie professionnelle. Mais non, je ne sais pas du tout... Quelles sont les démarches? Est-ce qu'il y a des preuves à fournir? Est-ce que ceci, cela? Ah ben là, j'ai une semaine de congé, donc je reprends le 25. Donc, c'est ça qui est fou chez nous, c'est qu'ils refusent qu'on laisse tomber nos congés, ils nous obligent à récupérer nos heures, et par moments, on n'est pas assez sur le terrain, mais ils ne veulent pas faire revenir les gens qui sont en congé. Je pense qu'ils ont vraiment peur de devoir payer les gens. Voilà. Et peur de devoir payer des heures supplémentaires et que, voilà, il y a par exemple à Saint-Pierre, tous les congés ont été annulés jusque fin juin pour tout le personnel. Mais chez nous, c'est l'inverse. On ne peut absolument pas supprimer ces congés. Voilà, ça, c'est la politique de la direction. Et comme on s'en sort, bah, puisqu'on s'en sort, comme on s'en sort toujours de toute façon, voilà, c'est que c'est bien. Voilà.
Organisme vivant d'une seule cellule, fonction élémentaire, reproduction, transmission, autonomie. Attention, attention, danger, cellule bactérienne inoffensive, bénéfique ou pathogène. Attention, attention, danger, cellule bactérienne inoffensive, bénéfique ou pathogène. Respiratoire, souffle en panade, ça lutte, ça se perd, ça s'échappe ailleurs. Infection virale ou bactérienne, comment combattre? Comment combattre alors? Comment combattre? Comment combattre alors? Quels sont les symptômes? Quel est le traitement radical? Mécanisme de défense, toxicité, vitesse de reproduction ingérable, toxine qui affecte. Comment combattre? Comment combattre alors? Comment combattre? Comment combattre alors? Attention, attention, danger. Système immunitaire, voilà le corps étranger. Attention, attention, danger. Système immunitaire, voilà le corps étranger. Arrêtez, arrêtez, arrêtez l'infection. Stoppez-la, stoppez par l'antibiotique. Attention. Molécules synthétiques, destruction de la croissance par un traitement sélectif. Aucun impact cependant, le problème, bactéries bénéfiques pour le tube digestif. Déséquilibre de la flore bactérienne, recolonisation par des bactéries pathogènes. Résistance, mutation. Salut, ça se perd, ça dérape ailleurs. Résistance, mutation. Salut, ça se perd, ça dérape ailleurs. Et ça recommence. Attention, attention, danger. Cellules bactériennes inoffensives et bénéfiques ou pathogènes. Attention. Attention, danger. Cellules bactériennes inoffensives, bénéfiques ou pathogènes. Attention, attention, danger. Cellules bactériennes inoffensives, bénéfiques ou pathogènes. Attention, attention, danger. Cellules bactériennes inoffensives, bénéfiques ou pathogènes.
Bonjour, nous sommes un groupe des sans-papiers, les oubliés de cette période de coronavirus. Tout d'abord, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes du corona et nous souhaitons un rapide rétablissement à toutes les personnes touchées par la maladie. En mémoire de ces vies perdues, nous faisons une minute de silence. Nous sommes venus aujourd'hui, malgré tous les risques, pour faire un cri humanitaire, pour faire un cri à l'humanité entière, un cri à la justice. Nous voulons que notre voix arrive à tout le monde et dire à toutes et à tous qu'on est en train de souffrir ici, dans ce pays, où nous sommes les oubliés de cette période délicate dans la société belge. Hommes, femmes, enfants, jeunes et âgés, malades, nous mourons à petit feu. Notre message s'adresse à Madame la Première Ministre Sophie Wilmès. Nous avons tous écouté avec grande attention votre dernier discours télévisé. Mais nous n'avons rien entendu de votre part concernant les migrants sans papiers ici présents sur le territoire belge. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un premier signal d'alarme, avec tout l'espoir que vous prenez au sérieux notre situation. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge, de notre existence ici depuis des années. Nous voulons être régularisés sans entrer dans des détails. La régularisation des sans-papiers dans la situation actuelle est nécessaire et urgente. Malgré toutes ces difficultés, aujourd'hui, nous les sans-papiers, nous respectons toutes les règles actuelles, nous respectons toutes les règles de confinement fixées par l'État belge. Avant cette pandémie, nous, sans-papiers, vivons déjà chaque jour des difficultés, mais au moins, nous pouvions travailler au noir et gagner de quoi vivre avec nos familles et nos enfants, une situation que nous dénonçons pourtant. Nous avons tant combattu contre l'exploitation des sans-papiers. Nous avons revendiqué d'être traités dignement. Nous avons revendiqué l'égalité entre toute personne résidant sur le territoire belge. Nous sommes plus qu'intégrés, car beaucoup parmi nous considèrent la Belgique comme leur deuxième pays. On est des citoyens et on revendique nos droits. On en a marre d'être considérés comme des inconnus étrangers non désirés. Vu l'état actuel, tous les secteurs sont fermés, il n'y a presque pas de travail. Les sans-papiers se trouvent du jour au lendemain sans aucun revenu et sans aucun aide, abandonnés par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui nous tue. C'est le coronavirus ne va pas discrètement, ne va pas directement pas tous nous tuer. Cette politique migratoire va le faire. Nous lançons un appel aux citoyens qui soutiennent notre cause, nous leur demandons de réagir avec nous et de dénoncer cette situation inacceptable. Voilà, il s'agit d'un premier signal d'alarme que nous lançons. Nous espérons entendre dans les jours qui viennent que l'État belge se décide à bouger dans les brefs délais pour notre cause et résolve notre problème. Car régulariser tous les sans-papiers sans attendre est juste, humain et vise le bien-être de tous et toutes. Nous demandons aussi la liberté, la libération des détenus dans les centres fermés et leur régularisation. Justice, liberté, papier pour tous!
Police, robot.